Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de signal spam avec Thomas Fonvielle. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Et les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et Nicolas Ruff.
Bonjour.
Alors Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Signal Spam ?
Bien sûr. Signal Spam, c'est un partenariat public-privé sous la forme juridique d'une association qui a été créée en 2005 à l'origine par le gouvernement, mais qui a été refondée en 2010-2011. Et c'est surtout de ce Signal Spam-là dont on va parler ce soir, et même uniquement. L'objet de l'association, c'est de recueillir le signalement des internautes sur tout ce que l'internaute considère être un spam. Donc, on lui demande pas de se poser la question de est-ce que c'est du phishing, est-ce que c'est menaçant, est-ce que c'est de l'email commercial. Non, à partir du moment où il a un courriel dans sa boîte de messagerie qui ne lui plaît pas, il est fondé à le signaler. Donc, nous recueillons ces signalements-là, nous extrayons toutes les informations qui permettent d'identifier les spammeurs. Et nous les partageons avec l'écosystème, c'est-à-dire les membres de l'association qui sont divers. Il y a des autorités publiques, il y a des entreprises, il y a d'autres associations. Il y a tout autant la partie FAI, donc plutôt destinataire des emails, que les émetteurs. Il y a donc les routeurs, les expéditeurs d'emails en masse. Il y a des entreprises de la sécurité, de la réputation. Et comme je le disais, des autorités publiques, notamment la gendarmerie, police, BFTI et la CNIL pour tout l'aspect protection de la vie privée et des données personnelles des internautes.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous en faites de ces messages ? Parce que par exemple, si un routeur envoie une campagne qui déplaît à beaucoup de gens, est-ce que vous blacklistez le routeur ? Est-ce que vous blacklistez juste le nom du client qui a payé la campagne ?
Oui, c'est évidemment le cœur de l'activité de l'association, c'est de développer des mécanismes des contre-mesures, de développer des contre-mesures pour chaque type de spam spécifique. Alors, l'association en tant que telle n'opère pas de blacklist, que ce soit sur des IP, sur des noms de domaine, mais certains de nos membres le font, et à ce moment-là, ils vont récupérer ces données-là. Tu citais par exemple le routeur, alors auprès des routeurs, Signal Spam identifie l'adresse IP émettrice du spam qui a été signalé. Et lorsque c'est un routeur membre de l'association qui est à l'origine de ce spam, nous allons renvoyer au routeur l'information qu'une plainte a été formulée sur ce message, sur cette campagne. Le routeur, en tant que membre de Signal Spam, a obligation de désinscrire l'internaute, ce qui lui sert donc à faire valoir le droit d'opposition des internautes et également à faire de la régulation marketing auprès de ses clients. Donc quand il va voir que ses clients génèrent trop de plaintes auprès de Signal Spam et de nos partenaires FAI notamment, il va être en mesure de discuter avec ses clients, d'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché sur leur campagne, voire même d'arrêter de travailler avec ces clients-là. Donc c'est dans ce cas précis, c'est plus un instrument d'autorégulation du marché qui est appuyé par la CNIL.
Vous avez combien de... Oui, Eric, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, c'était moi. Oui, j'ai une petite question. Alors en fait, sur la qualification du mail qui vous est envoyé, c'est une qualification automatisée ou est-ce qu'il y a un traitement manuel ?
Alors, vu les volumes que l'on traite, on ne le fait pas en manuel, tout est automatisé. Donc dans une première version, Signal Spam ne marchait qu'avec, on regardait les adresses IP et on matchait les adresses IP uniquement avec celles qu'on avait en base. Mais depuis 2013, on travaille avec Vaderetro, qui est donc le moteur anti-spam de tous les FAI français et qui a beaucoup de technologies pour lutter contre le spam et le phishing. Et Vaderetro a un moteur de qualification des emails qu'il partage avec l'association. Donc on fait tourner ce moteur de qualification sur tout le spam qui nous est signalé, ce qui nous permet de classer le spam dans différentes catégories. Donc on va assez vite voir ce qui relève de nature cybercriminelle ou ce qui est de l'email marketing, avec ensuite un niveau de granularité un peu différent pour l'email marketing. Et dans le spam d'origine cybercriminelle, on va classer ça en spam bot, phishing, arnaque, Et ensuite, on peut aller en finesse, regarder ce qui est du casino, industrie pharmaceutique, produits de contrefaçon, produits manufacturés chinois. Voilà, on a d'autres catégories ensuite.
Donc, vous avez très peu de faux positifs au final ?
Comme le disait Thomas, il ne s'agit pas de rejeter un signalement. Tous les signalements des internautes sont pris en compte. C'est-à-dire, s'il estime qu'il n'a pas à recevoir ce message, c'est transmis à Signal Spam pour qu'on en fasse part à la personne qui a émis le message. Et ensuite, c'est en fonction des volumétries, éventuellement, que le tiers va réagir. Si sur une campagne de 10 000 messages, il a une centaine de messages qui lui sont signalés comme spam, c'est qu'il y a un problème sur la liste, sur la qualité du travail qui a été fait par celui qui a lancé la campagne. S'il y a juste un signalement, bah, il s'agira juste de désabonner l'internaute parce que bah, lui, il estime qu'il n'avait pas à le recevoir. Donc, c'est plutôt au niveau des volumétries, au niveau de chaque acteur qu'il va falloir avoir une réaction adaptée.
Mais t'imagines qu'il y a quand même des abus possibles, parce que j'imagine que si, disons, je fais une campagne de spam pour vendre mon yaourt et qu'un concurrent qui vend aussi des yaourts décide de classer toute ma campagne en spam en utilisant des bots qui font du reporting automatique.
Il faudrait qu'ils reçoivent les messages.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, on l'a précisé, mais on va le détailler un petit peu. On parle bien des messages qui arrivent in fine dans la boîte mail des destinataires. Donc les messages qui ont déjoué tous les filtres mis en place par les FAI et les messageries.
Mais alors après, l'utilisateur final, lui, comment il fait pour remonter ce message ?
Alors, l'utilisateur final, il clique juste sur son bouton Signal Spam qu'il a installé dans son client messagerie ou dans son navigateur internet depuis son webmail directement. Sinon, il y a aussi une procédure qui est un petit peu plus complexe qui oblige l'internaute à afficher le code source de son message et à le copier sur notre site. Mais on dispose quand même d'outils qui permettent à tout le monde de signaler en un clic aujourd'hui.
Donc ça passe par une API publique qui est exposée quelque part sur un de vos serveurs, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui empêche un malveillant, on va dire, d'abuser de l'API pour remonter des messages de son concurrent en falsifiant des message ID ou autre? Enfin, jusqu'à quel point vous vérifiez que le message qui vous est remonté est légitime ou falsifié, en fait?
Vas-y, Eric, je te laisse répondre.
Ouais, non, ce serait au routeur d'identifier qu'il y a un problème. Parce que lui, il va recevoir l'information. Lui, il sait quel message il a envoyé, puisqu'il a une trace. Et donc, on n'a jamais eu de cas qui nous soit remonté de signalement falsifié par des internautes. Donc, je pense pas qu'il y ait... Pour l'instant, on n'a pas rencontré ce genre de cas. Mais on n'est pas complètement à l'abri, mais le routeur le détecterait, en fait.
Ouais. Sur la volumétrie, le routeur le détecterait. Après, c'est vrai qu'entre routeurs, il y a quand même une concurrence qui est assez forte. Et il nous est déjà arrivé quand même de trouver des traces d'abus entre les routeurs. Donc, on a déjà remonté des entêtes et on a déjà constaté qu'il y avait des listes qui avaient été piégées entre des routeurs. Bon, ça, c'est quelque chose dont on peut s'apercevoir en faisant un travail d'enquête assez fin. Donc, le risque existe. Ouais.
D'autant qu'il y a énormément de routeurs dans le monde et il y a, on va dire, assez peu d'acteurs français. Enfin, moi, j'ai connaissance d'acteurs, on va dire, qui travaillent au Moyen-Orient, qui sont extrêmement actifs et pas toujours très scrupuleux.
Alors, Thomas n'a pas détaillé, mais on a une politique de recrutement qui est assez rigoureuse. Donc, on a une charte de déontologie et à la fois, on a des membres qui ne sont pas que français, maintenant. Et puis, on sélectionne les membres un par un en fonction de leur candidature, de leur profil, de leur comportement tel qu'il est connu. Donc, Thomas, tu peux peut-être détailler la charte de déontologie et le processus.
Oui, bien sûr. Donc, on a effectivement beaucoup de routeurs français et de gros routeurs mondiaux qui sont tous dans Signal Spam. À partir du moment où le routeur a une activité sur la France, il va s'intéresser à Signal Spam puisque c'est le seul moyen pour lui de récupérer ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Signal Spam opère les boucles de rétroaction sur le marché français. Mais bien sûr, pour On n'admet pas n'importe quel routeur dans Signal Spam. Le critère, ce n'est pas un critère de nationalité, c'est un critère de conformité à notre charte de déontologie. La charte de déontologie, c'est le résultat de travaux qu'on a initié en 2012, sous l'impulsion d'Éric Fraissinet, qui est notre vice-président. Et tous les membres de l'association se sont rassemblés, ont parlé des bonnes pratiques et ont décidé de donner des critères techniques à l'entrée dans Signal Spam. Donc cette charte de déontologie, elle est publique, elle est accessible sur notre site, et n'importe quel membre en pétrant, ça ne concerne pas que les routeurs, doit formuler une déclaration de conformité à cette charte. Il prend des engagements à respecter certaines techniques, et en même temps, c'est pas que un document d'admission, même ce n'est pas un document d'admission, c'est plus un document qui nous permet de dialoguer avec les différents impétrants pour qu'ils aient une idée du standard technique qu'on exige, de l'esprit dans lequel on veut travailler dans l'association. Ça va les amener à prendre conscience des écarts qui peuvent exister entre leur mode de fonctionnement actuel et ce qu'il faudrait pour rejoindre l'association, ou au contraire, ils peuvent apporter à l'association un retour d'expérience et nous montrer qu'il y a d'autres bonnes pratiques qu'on peut envisager et qui sont au-delà des pratiques que nous on recommande, et on peut se nourrir également de l'avancée de certains membres. Donc c'est une étape obligatoire qui nous permet chacun d'évoluer, d'apprendre à se connaître et de respecter un minimum de...
Tu peux préciser un peu les pratiques du milieu, parce que tu parles de boucles de rétroaction par exemple, c'est pas forcément évident pour tous nos auditeurs.
Oui, les boucles de rétroaction, ce sont des outils qui sont vitaux pour un routeur. C'est un outil à travers lequel le routeur va récupérer toutes les plaintes qui ont été formulées sur son infrastructure. Donc le routeur envoie un message, je suis sur une boîte Hotmail, je suis sur une boîte Orange, je clique sur le bouton spam de ce webmail, et Hotmail ou Orange et tous les autres mettent à disposition éventuellement ces plaintes à destination des routeurs qui vont pouvoir désinscrire les internautes qui sont plaints. C'est vital parce que ça leur permet de se prémunir d'un éventuel blacklistage du FAI ou de la messagerie. Blacklistage sur IP ou sur nom de domaine. Donc les grandes FBL, feedback loop, boucle de rétroaction, sont les FBL américaines qui sont bien connues, celles de Yahoo, celles de Hotmail. En France, il n'y a pas de boucle de rétroaction à proprement parler en dehors de celle de Signal Spam. Les FAI récupèrent évidemment les plaintes qui sont formulées que leurs clients leur formulent, et partagent certaines de ces informations-là avec Signal Spam pour que Signal Spam ensuite puisse les redistribuer à la communauté. Mais pour revenir aux boucles de rétroaction, c'est un outil vital qui, sans lequel les routeurs aujourd'hui ne peuvent pas travailler ou dans des conditions extrêmement dégradées, puisqu'ils vont être blacklistés et ils navigueront sans avoir aucune information.
Et donc, c'est une mission régalienne, la boucle de rétroaction? Enfin, comment ça se fait que Signal Spam soit un partenariat public-privé? Comment ça se passe dans les autres pays?
Alors, aux États-Unis, les boucles de rétroaction sont activées par chacune des messageries qui les met à disposition de manière assez publique. En France, on est sur un marché qui est très différent, beaucoup plus protecteur, puisque dans les signalements qui sont renvoyés dans la boucle de rétroaction, il y a des informations personnelles qui concernent l'internaute. Il peut y avoir, dans le cas de faux positifs, il peut y avoir également des messages interpersonnels, il peut y avoir des photos, il peut y avoir des URL. Bref, il y a beaucoup d'informations et on ne peut pas les communiquer facilement aujourd'hui. En France, Signal Spam a le droit de mettre à disposition une boucle de rétroaction parce que c'est un partenariat public-privé, et surtout parce qu'il requiert le consentement des internautes qui acceptent les conditions d'utilisation de Signal Spam au moment où ils installent les outils de signalement, et ils acceptent même que Signal Spam utilise ces signalements avec ses partenaires pour identifier les spammeurs et déployer les contre-mesures adéquates.
D'ailleurs, on respecte intégralement la loi informatique et liberté, y compris la possibilité pour la personne de retirer éventuellement ses messages. Alors, on n'a pas eu à le faire très souvent, mais c'est pour ça qu'on demande aux internautes de s'inscrire. C'est parce qu'il faut garder un lien avec la personne pour lui permettre de faire droit au respect de sa vie privée. Donc parfois, oui, on nous pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut s'enregistrer? Bah, c'est justement pour protéger l'internaute.
Oui, mais... les internautes peuvent éditer eux-mêmes les signalements qu'ils effectuent.
Exactement.
Ils peuvent les retirer, ouais. Et ils peuvent aussi demander la suppression de leur compte auprès de nos services.
Mais s'il faut installer un bouton et créer un compte, vous avez combien d'utilisateurs? Enfin, ça doit concerner que les barbus libristes qui lisent leur mail en plein texte, qui n'acceptent pas l'UTF-8, non?
Eh bien non, si on regarde la typologie des utilisateurs de Signal Spam, on a aussi beaucoup de retraités, beaucoup de personnes qui se sentent investies et concernées par la lutte contre le spam. Mais fondamentalement, pour répondre à ta question, Nicolas, oui, le dispositif Signal Spam était jusqu'à il y a peu quelque chose d'assez complexe à utiliser et à utiliser quotidiennement, hein, surtout, puisqu'il donc il fallait soit être capable de faire d'afficher le code source de son message en fonction de sa messagerie et le coller sur notre site, ou alors on avait des boutons pour les clients messagerie. Mais aujourd'hui, on a des boutons pour les navigateurs qui permettent de faire le signalement depuis directement les webmails. Et avec ça, on espère bien ouvrir le dispositif à un maximum d'utilisateurs potentiels.
Et vous avez combien d'utilisateurs actuellement ?
Alors, des utilisateurs inscrits, donc si on va compter également les utilisateurs passifs, on est à 1,5 million environ. Mais toute cette communauté-là ne signale pas. On est quand même bien loin de ça. On pense qu'il y a 10% d'utilisateurs actifs là-dessus. Plus significatif pour nous, c'est le volume de signalement qu'on va recevoir par mois. Et actuellement, on tourne autour de 450 000 signalements mensuels.
Et c'est quand même une base non négligeable.
C'est une base non négligeable, mais qui n'est pas comparable à ce que les FAI reçoivent. Si vous prenez Orange, bon, on est sur plusieurs millions de signalements par jour.
Plusieurs millions par jour, ouais. Ou par mois?
Plusieurs
millions par jour.
Ouais. Je vais vous dire très exactement en affichant ça. Sur le mois écoulé, par exemple, chez Orange, il y a eu près de 10 millions de plaintes.
10 millions de plaintes par mois.
Ouais, 10 millions de plaintes par mois. Chez FCFR, on tournait aux alentours de 7 millions. Et sur La Poste également aux alentours de 7 millions.
Il y a plus de retraités clients chez Orange.
Il y a plus de clients.
Plus de clients, oui.
Ça correspond à peu près aux parts de marché, ouais.
Et alors comment vous communiquez avec les opérateurs, du coup? Vous avez des API, il y a un format standard qui vous permet de remonter, d'extraire des données du mail et les remonter dans des champs structurés,
oui.
Type émetteur, destinataire,
oui,
contenu.
Oui, absolument. Absolument. On analyse chaque champ de l'entête technique, on les sépare et on va renvoyer les informations qui vont concerner spécifiquement le membre de Signal Spam en fonction des actions qu'ils sont amenés à prendre. Donc on a parlé des routeurs, je vais continuer un tout petit peu sur les routeurs parce qu'il faut bien comprendre comment on travaille avec eux. Au routeur, on va remonter tous les messages qui sont issus de leur infrastructure, sachant que le champ qui les intéresse, c'est le message ID qui leur permet d'identifier la campagne dont l'internaute se plaint avec le redatage. Pour les FAI, on va également renvoyer le message complet de toutes les plaintes qui émanent de leur réseau, sachant que le FAI, lui, va être intéressé à identifier les clients chez eux qui génèrent des plaintes pour spam, puisqu'ils vont soupçonner du coup la compromission de la machine et son affiliation à un botnet. Donc très important pour le FAI de pouvoir identifier ce sont les réseaux, les machines infectées, de pouvoir retourner vers leurs clients et leur proposer le cas échéant des outils de désinfection. Ça c'est une des contre-mesures ou une des actions qu'il est possible de prendre. Mais on n'a pas toujours besoin de renvoyer l'intégralité du message. Au contraire, on va essayer de le faire dans le moins de cas possible. Ce qui va être intéressant pour pas mal d'acteurs, ce sont les URL des messages que l'on a identifiés comme étant du phishing. À ce moment-là, on ne va que renvoyer les URL qu'on soupçonne d'être du phishing. Donc à chaque type de membre et aux actions qu'il est susceptible de prendre, on va envoyer les informations qui vont bien.
Mais enfin, cet envoi, il se fait comment? Vous faites comme Free avec Adopi, vous faxez tout en police 4 ou il y a des champs structurés, du JSON, du XML, je ne sais pas, parce qu'il y a 450 000, enfin, je sais pas, 450 000 par mois, il faut quand même que ce soit traité plus ou moins automatiquement.
Le format standard de reporting de spam, c'est de l'ARF, Donc, c'est ça qu'on renvoie quand on envoie des messages complets.
Abuse report format.
Oui, c'est le abuse report format. Si on fait du reporting de botnet, de spambot, on va être sur de l'XARF. Quand on envoie uniquement les URL, bon, on va mettre toutes les URL dans un CSV et on va faire du push email. Ça va vraiment dépendre. Notre application est susceptible de gérer un peu tous les formats qui vont bien pour nos partenaires.
Tu fais bien de préciser, je viens de découvrir que l'ARF était standard RFC 5965.
Ça va plaire à Stéphane Bortsmeyer qui nous écoute.
Et donc après, derrière, j'imagine qu'il doit y avoir une infrastructure technique assez démente pour traiter ça, non ? Comment vous conservez tous les mails 3 ans, j'imagine ? Enfin, c'est quoi la durée de conservation légale ? C'est 1 an ou 3 ans ?
Durée de conservation légale, elle doit être adaptée aux finalités que l'on se donne. Donc nous, on a une règle de conservation de 3 ans, effectivement. Eric, je pense que tu me corriges hein, si je me trompe. Et pour nos membres, surtout, on va imposer des durées de conservation un petit peu différentes dans nos contrats. Donc avec un routeur, en tout cas, c'est une durée standard de 3 ans. Enfin, ils peuvent pas conserver les fichiers au-delà. Après, ce qui est un petit peu différent dans notre cas, c'est que les plaintes que reçoit Signal Spam sont susceptibles d'être utilisées par des enquêteurs. Donc nous, on va conserver les plaintes. Ça, on peut les conserver plus longtemps si une enquête peut intervenir. Donc on est une base de réquisition judiciaire également. Ce qui peut justifier qu'on garde les plaintes plus longtemps.
Vous utilisez un coffre-fort certifié pour ça ?
Non, pas actuellement. En revanche, sur le plan de l'infrastructure, on a évolué récemment. On est passé d'une infrastructure classique, on va dire, à des serveurs virtuels. Un petit peu de l'info nuagique, mais à la française, et avec un partenaire assez efficace. Ça représente pas des infrastructures gigantesques, hein, c'est juste du mail, donc c'est du texte, c'est pas des centaines de mégaoctets à chaque fois. Donc je sais plus à quelle volumétrie on est actuellement, Thomas, mais c'est pas gigantesque.
Du nombre de signalements total en base.
Ouais, et puis ça représente quelle volumétrie, je me rappelle plus, mais enfin, c'est quelques téraoctets qu'on a, c'est pas beaucoup plus.
Oui, on fait face à des besoins croissants hein, quand même, qui nous obligent à prendre plus de serveurs, en tout cas plus d'espace assez souvent.
Ouais. Et ça, c'est dynamique. Hein.
S'il y a 1,5 million d'utilisateurs, donc de comptes utilisateurs en base, plus, je sais pas, une QPS à quelques centaines de milliers par mois, plus derrière des gens qui, j'imagine, développent ces boutons, qui font de l'intégration avec les pages web des différents fournisseurs de webmail.
Plus nos outils d'analyse.
Combien de personnes, quel budget ? Alors, c'est quoi un peu le...
Je reprends un tout petit peu ce qui a été dit. Les boutons ne sont pas intégrés directement dans les webmails. Ils sont intégrés dans les navigateurs, dans les 3 navigateurs que sont Chrome, Safari et Firefox. Donc il n'y a pas d'intégration dans les webmails.
Oui, parce que le bouton est quand même capable de parser la page pour extraire l'information qui est contenue dans la page, non ? Comment ça marche exactement ?
En plus, c'est une nouveauté, hein, Thomas.
Ouais, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. On va communiquer sur ces boutons lors du FIC en début de semaine prochaine. C'est là qu'on les rendra publics. Mais pour détailler un peu le fonctionnement de ces boutons, ils sont bien intégrés dans les navigateurs et effectivement le bouton, le plugin ou l'extension ou le module, c'est reconnaître le webmail sur lequel navigue sur lequel se trouve l'utilisateur et connaît le comportement de chacune de ces pages-là et sait retirer les informations, sait activer le code source et nous le renvoyer. Et il sait également jouer toutes les règles spécifiques de la messagerie. Si par exemple on est sur Gmail, le bouton, quand on va cliquer sur le bouton signal spam, ça va à la fois renvoyer vers la feedback loop de Gmail, on ne prive personne de son signalement, et ça va également activer le list and subscribe et permettre à l'internaute de se voir proposer l'option de se désabonner de la campagne.
Et ouais, juste pour préciser un peu les choses, Nicolas, sur les effectifs, le budget, etc. Par exemple, sur les nouveaux plugins de signalement web, c'est un partenaire externe qui l'a développé dans le cadre d'une relation commerciale hein, qu'on a développée avec eux. Pour le fonctionnement au quotidien du serveur, bah c'est notre vice-président qui s'y colle en tant que bénévole, donc pas moi, mais Philippe Lantoureau de chez SFR, et avec l'assistance d'un prestataire externe qu'on rémunère à cette fin. Et donc, le budget global de l'association, Thomas, c'est un peu plus de 200 000 euros chaque année actuellement.
Oui, c'est ça. On est passé en 3-4 ans d'un budget qui devait tourner aux alentours de 250 000 euros et aujourd'hui on est presque à 300 000 euros.
Oui, ce qui reste pas énorme quand même.
Non, ce qui reste un petit budget associatif, mais on a pris le pari il n'y a pas si longtemps d'abaisser les cotisations des membres sponsors, donc de la plus grosse catégorie de membres, pour permettre à plus de membres d'accéder à cette catégorie-là. Donc on a un budget qui nous permet de fonctionner et qui nous permet même de mener des projets. Et on a des services qui sont très importants hein, au moins pour le comité des routeurs qui finance beaucoup l'association. Mais on n'a jamais décidé de rehausser le niveau des cotisations. On table plus sur un accroissement du nombre de membres.
Et comment vous gérez le mobile là-dedans? Parce que bon, je ne parle pas du spam par SMS, même s'il y en a beaucoup.
Oui.
J'imagine que c'est Horoscope.
Pour l'instant,
du spam téléphonique type rappelez-moi au 08-92.
Oui, il y a un service qui existe pour ça, c'est le 33-700 qui était géré par la Fédération des télécoms. Mais sur le spam mobile, donc est-ce qu'on a des moyens de signaler son spam depuis un terminal mobile? Non, l'association ne dispose pas encore de ces outils-là. Mais maintenant qu'on a bien couvert l'environnement fixe avec ces boutons pour les navigateurs, c'est la priorité, c'est notre prochain chantier, s'atteler à créer une application qui permette le signalement depuis les terminaux mobiles.
Et donc juste pour être sûr de bien comprendre, dans les boutons, vous ne supportez pas Internet Explorer. Je ne parle pas de Edge, hein, qui est pluginless, mais...
Oui, on ne supporte pas Internet Explorer et on ne sait pas encore, et on pourrait Edge, de toute façon on ne connaît pas encore les spécifications qui nous permettraient de savoir si c'est éventuellement faisable.
C'est fini Internet Explorer, tu n'as pas lu la revue de l'OSIR du mois passé?
Non, Internet Explorer, la dernière version reste supportée.
Oui, quasiment.
Pour l'instant, oui. Il y a une catégorie de membres que tu n'as pas encore citée, Thomas, c'est les hébergeurs. Et donc on a OVH qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant, hein, il y a un peu plus d'une année. Il y a une année pile d'ailleurs.
Une année pile, ça fera une année en février lors du MOG à San Francisco.
Ouais. Et pour nous, c'était assez important parce que une grosse partie du spam est évidemment aussi émise des hébergeurs, hein, puisque les routeurs sont hébergés évidemment. Et une grosse partie de notre action a été au cours des dernières années d'essayer de convaincre et de montrer et de démontrer aux hébergeurs qu'on pouvait agir dans ce domaine. C'est un travail qui a marché avec OVH, qui a bien voulu nous rejoindre et avec qui on a eu des bons résultats. On a bien travaillé et on continue de bien travailler. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, avec Thomas, on était à Lille pour discuter avec eux de projets, de formation, de workshops, etc. à destination de leurs clients. Et donc, on va continuer de développer des activités en ce sens. Mais c'est un acteur complètement différent des routeurs qu'on a l'habitude de traiter. Hein, les volumétries auxquelles ils ont à faire face sont complètement différentes. En revanche, ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large, et donc y compris des prestataires qui seraient hébergés chez OVH et qui viendraient de n'importe où sur la planète, eh bien, ils peuvent être touchés par les signalements des internautes français, ou hors de France hein, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas que des Français qui s'inscrivent chez nous. Sur la période, on a réussi à diminuer de 50% les spams qui étaient émis par qui étaient signalés sur Signal Spam relatifs à OVH, mais on continue d'être attentif parce que les vrais spammers, donc ceux qui ont une démarche agressive voire illégale, eh bien, ils développent des stratégies pour contourner toutes ces choses-là. Et donc, ils arrivent à créer des nouveaux comptes chez les hébergeurs et à se relancer, etc. Et donc, on continue de travailler avec OVH là-dessus. Et on essaye de convaincre d'autres hébergeurs de nous rejoindre. Et donc, la liste est assez évidente. On va pas donner de nom ici, mais on espère qu'ils vont venir nous rejoindre. Il y en a un qui est très près de le faire. Et puis, il y en a d'autres qui vont certainement nous rejoindre, ou en tout cas qu'on va approcher parmi les hébergeurs.
D'accord. Et alors, je ne sais plus si tu l'as dit depuis quand l'association existait, mais est-ce que vous avez participé, par exemple, à la coupure de l'hébergeur McColo, qui était un hébergeur bulletproof américain, je crois que c'est dans les 2008-2009 ou un truc comme ça?
Non.
Et qui a été coupé, tous ces points de périgue ont été coupés parce qu'ils faisaient trop de spam.
Non, pour parler de la vie de l'association, au début, Signal Spam, c'était une sorte de boîte à spam, un peu comme la FTC aux États-Unis. Et c'est véritablement en 2010-2011 que l'association s'est développée pour devenir quelque chose qui s'adresse à un public plus large, à plus de membres, et qu'on a eu l'idée d'exploiter les signalements pour en renvoyer une partie vers les routeurs. Donc avant 2010-2011, l'association n'avait pas vraiment les moyens de mener une action claire et décisive.
Mais il y a une vie éventuelle des membres de l'association. Alors, c'est arrivé très peu souvent, mais il nous est arrivé à deux reprises, je crois, de devoir se séparer d'un de nos membres parce que ses pratiques ne correspondaient pas à la charte de déontologie et à ce qui était acceptable par les internautes français. Alors, ça pose des problèmes parce que, du coup, ils ne reçoivent plus les signalements. Mais ils ne participent plus à l'association et ne sont plus reconnus comme tels parce qu'on a identifié qu'ils pouvaient plus, ils ne respectaient pas ce qu'on attendait d'eux, ils n'avaient pas de bonnes pratiques.
Tout à l'heure, tu as parlé aussi de ceux qui font du vrai spam. Et vu le business du spam dans le monde, je pense que vous ne devez pas avoir que des amis. Et est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec, on va dire, des criminels ou mafieux, à la fois au niveau numérique? C'était un peu comme Spam House, je crois que c'était en 2013, avec un énorme DDoS qu'ils avaient reçu, ou voire même dans la vraie vie, avec des menaces ou des choses comme ça.
Oui, quand on épluche le courrier des internautes à l'association, on tombe sur des choses qui ne sont pas toujours très sympathiques à notre égard, ça oui. Après, on n'a pas fait face à des attaques de denial de service comme effectivement Spam House a pu en être l'objet. Eric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Pour l'instant, comme on travaille quand même essentiellement sur le spam commercial, parmi les routeurs qui sont membres chez nous les autres routeurs éventuels de mails dans le monde, ils produisent du spam éventuellement parce que certains de leurs clients abusent de leur service. Pour autant, ça ne fait pas d'eux des spammers. Ce qu'on appelle les spammers criminels, ça va être des gens qui vont prendre des serveurs chez un hébergeur ou alors qui vont acheter des listes à droite à gauche et puis les exploiter pendant quelques jours chez un routeur à son insu. Ils vont être vite détectés, mais les messages seront quand même partis. Et ceux-là, de toute façon, ils sont capables de changer de fournisseur du jour au lendemain, donc c'est à eux qu'il faut faire face. Ils ont jamais vraiment été trop intéressés à Signal Spam, je suppose parce qu'on a une dimension franco-française un petit peu, et puis qu'on n'a pas encore le même impact que Spam House, hein, qui a une dimension globale plus visible. Maintenant, un de nos partenaires importants, Orange, qui a une action résolue, hein, tout comme SFR contre les spammers. Je suppose que de temps en temps, ils doivent recevoir quelques tentatives de déni de service, mais c'est des gros opérateurs. Et donc, eux ne sont pas concernés. Quant à des menaces directes, non. En revanche, Thomas a évoqué qu'un certain nombre d'internautes se plaignent de notre action. Et ça, c'est une vraie difficulté à laquelle on fait face, et c'est ce sur quoi on travaille, c'est expliquer clairement à quoi sert Signal Spam. Ça fait pas chuter dramatiquement le spam dans le monde, hein, c'est pas une action magique. Ça fait chuter le spam chez nos partenaires, et ça permet de détecter les occurrences de spam éventuelles et de prendre des actions concrètes. Et on prend des actions immédiates et on peut assurer tout le monde que dès que un de nos membres est concerné par une élévation trop importante du nombre de signalements, il fait immédiatement l'objet d'un contact, de démarches, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour corriger le problème. Identifier le client qui lui posait des difficultés, par exemple. Et ça, c'est parfois mal compris par les internautes. Ils imaginent que il suffit de signaler pour que le spam s'écroule. Malheureusement, il y aura toujours des acteurs malveillants pour relayer les campagnes les plus virulentes.
Ah oui, tu voulais dire des gens qui se plaignent, entre guillemets, du manque d'efficacité de signal spam, ouais, et qui confondent et ça... l'usage.
Ouais, tout à fait. Et ça c'est une difficulté à laquelle on fait face. C'est pour ça qu'on essaye de se développer avec des nouveaux membres, comme OVH, qui permet d'avoir une action encore plus forte contre certains abuseurs des infrastructures des hébergeurs. Et on va continuer de travailler dans ce sens. On développe des partenariats à l'étranger avec des associations similaires. Alors c'est encore balbutiant, hein, Thomas, les partenariats à l'étranger.
Oui, enfin on en a quand même 5 ou 6. C'est soit avec des associations partenaires, soit avec les autorités dans les pays concernés. Ça peut être le CRTC au Canada, la FTC aux États-Unis. On a des contacts au Japon, en Nouvelle-Zélande. En Suisse, au Luxembourg également. Donc, on essaie de nouer un réseau de relations qui permet de renvoyer de l'information vers ces pays-là.
Et la particularité de Signal Spam, vraiment la richesse, c'est de collecter des informations riches sur le spam grâce à nos signalants, ce qui nous permet d'adresser tous les cas. C'est-à-dire d'adresser tous les acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste l'adresse IP d'où provient le spam, ou pas uniquement le sujet du mail, ou pas uniquement son contenu, on a l'intégralité des messages, ce qui nous permet d'adresser à chacun les informations dont il a besoin et dont il a à connaître pour traiter les signalements, d'où l'efficacité de ce travail. Et c'est assez particulier au niveau mondial, hein, de travailler de cette façon.
Un petit complément à ce que tu disais, Eric, effectivement, il y a des internautes qui peuvent aussi nous reprocher de travailler avec des routeurs. C'est parfois quelque chose qui n'est pas très bien compris. Donc, on fait l'explication, on explique que ça permet aux routeurs de s'autoréguler, de se couper de certains clients. Mais on ne fait pas que ça. On travaille en parallèle avec la CNIL et on renvoie vers la CNIL un top 50 des plus gros spammers français, et c'est sur la base de ce top 50 notamment que la CNIL peut prendre des actions, aller contrôler des sociétés et même, le cas échéant, prendre des sanctions. Donc on a les deux versants. C'est oui, on partage avec vous les routeurs certaines informations qui peuvent vous permettre d'améliorer la qualité de vos envois et de contrôler vos clients, et si vous le faites mal, de toute façon, sachez que vous pourrez être bloqué par le FAI et qu'en plus, la CNIL va accéder au nombre de plaintes que vous avez générées sur le réseau.
Et campagne par campagne, hein, c'est les campagnes qui sont signalées à la CNIL. Et par ailleurs, on tient à disposition, donc sur réquisition cette fois-ci, des services d'enquête, les données de signalement pour leur permettre éventuellement d'investiguer dans le passé sur un cas qu'ils auraient. Alors, par exemple, sur des envois de virus, hein, puisque certains des signalements correspondent à ça, ou sur des campagnes de spam commercial ou de phishing ou autre, sur lesquelles on serait amené à avoir des informations qui peuvent être utiles au service d'enquête.
Sinon, les utilisateurs, tu leur expliques que le spam, c'est comme la poussière. T'as beau faire le ménage tous les jours, ça revient et tu sais pas d'où.
Ouais, mais nous, on est convaincus qu'on est arrivé à faire baisser chez nos membres les occurrences, à réagir plus rapidement, à développer des bonnes pratiques. Je peux te dire que quand un nouveau membre arrive et que effectivement au début il va dire ah oui, je fais du SPF, j'ai bien un abuse, etc. Mais il y a d'autres questions qui lui sont posées. Thomas, tu peux peut-être détailler certains des éléments clés sur lesquels on travaille avec les nouveaux membres.
Les éléments clés de la charte et souvent des éléments qui sont pas forcément bien compris des membres en pétrant, c'est par exemple sur la procédure de désinscription, il y a souvent des choses qui, bon, ils sont au courant qu'une procédure de désinscription est obligatoire et qu'il faut mettre un lien en bas de l'email, mais après sur le message qui s'affiche, ils ne savent pas forcément qu'il faut mettre l'adresse qui va être désinscrite et également la base dont on va être désinscrit. On a aussi pas mal de cas où il n'y a pas de règle de conversion des softbounds en hardbounds. Donc toutes les notifications d'erreur ou de undelivery ne sont pas forcément bien prises en compte. Donc on va travailler avec les membres impétrants à écrire de nouvelles règles ou à développer un peu leur infrastructure technique pour mieux respecter les standards que les FAI au demeurant veulent voir imposer pour avoir une bonne délivrabilité chez eux. Donc ça, ce sont par exemple des critères. Ensuite, on demande pas mal d'informations sur l'implémentation de SPF, DKIM ou DMARC. On n'est pas à un niveau où on impose DMARC du tout, hein, mais on est curieux de savoir si nos membres l'implémentent, comment est-ce qu'ils travaillent avec, s'ils sont prêts à éventuellement partager les rapports d'erreurs DMARC avec SignalSpam dans le but de développer dans le futur des services, en tout cas pour avoir plus d'informations. C'est le genre de choses que l'on fait. On suggère aussi de mettre d'autres champs dans les entêtes. Ça peut être le list and subscribe quand il est pas présent. Ou à d'autres standards encore.
Et puis on a rajouté dans une deuxième phase des recommandations assez impératives sur la prévention touchant aux mineurs. Et notamment, il s'agit pour le membre de s'engager lorsqu'il est amené à envoyer des messages qui peuvent être préjudiciables pour les mineurs, par exemple du contenu pornographique. Un pornographique qui est parfaitement légal, mais qui serait illégal d'envoyer vers des mineurs, et bien d'avoir des mesures en place pour prévenir ce genre de situation. Par exemple, d'avoir des bases qualifiées pour s'assurer qu'on s'adresse bien à des adultes.
Oui, on pourrait penser que c'est la base, mais non, on a eu il n'y a pas si longtemps un cas d'un routeur qui a envoyé des emails pornographiques sur une base non qualifiée. Ça a été un désastre pour lui puisque le nom de domaine a été complètement blacklisté. Voilà, donc c'est pas inutile de s'attarder à ce que dit notre charte de déontologie parce que parfois même la base n'est pas toujours respectée par les routeurs.
On espère que et les routeurs et les internautes vont écouter cette émission et mieux comprendre le fonctionnement de SignalSpam.
Il y avait eu un cas pendant les élections de 2012 où là il y avait eu un parti politique qui avait spammé sur une base.
Alors c'est un sujet intéressant ça. parce que donc le spam, il y a les catégories criminelles qu'on évoquait tout à l'heure et puis il y a la définition classique du spam. Et en fait, celle qui est dans la loi, qui est la prospection commerciale non sollicitée. En revanche, la prospection politique n'est pas couverte par autre chose que la loi informatique et liberté. Et il y a éventuellement un débat sur l'applicabilité de l'opt-in dans ce domaine. Et ça reste un vrai questionnement. Et en tout état de cause, on observe effectivement à chaque élection des choses intéressantes de ce côté-là. Nous, on est prêts à discuter avec des représentants politiques, alors sur le plan technique, hein, pas sur le plan politique évidemment, mais les représentants d'un parti qui auraient envie d'avoir des bonnes pratiques dans le domaine. La CNIL aussi le fait et publie à chaque élection des recommandations assez précises sur ce qui est attendu d'eux, c'est un sujet qui est pas facile à traiter parce qu'il n'est pas très clairement traité par la loi.
Il y a d'autres sujets un peu connexes, comme par exemple celui de l'opt-in partenaire, où on voit qu'on est sur des niveaux de pratique dans l'écosystème de l'email qui peuvent varier beaucoup. Et SignalSpam peut être amené à prendre des positions après avoir consulté l'ensemble de ses membres pour essayer de définir le cadre idéal, en tout cas souhaitable à nos yeux, et ce sont des études et des consultations qui sont remises à la CNIL, par exemple.
Bon, et alors, c'est quoi l'avenir de SignalSpam ?
Donc, comme on l'a évoqué un peu plus tôt dans l'émission, l'avenir du signal spam va passer par les nouveaux boutons que l'on propose pour les navigateurs. Ces boutons vont permettre un usage vraiment simple et un signalement très simple pour les internautes, puisque ça va être adapté à quasiment toutes les configurations d'utilisation de l'email sur un environnement fixe. Ça, c'est la première chose, et ces boutons-là seront disponibles en téléchargement dès la semaine prochaine sur notre site et chez la plupart de nos membres également. L'avenir de Signal Spam passera forcément aussi par la prise en compte de l'email sur les terminaux mobiles, et l'association va essayer de développer des outils de signalement sur les téléphones.
C'est une exclue pour les boutons, là?
Tout dépend si l'épisode sort avant le FIC ou pas.
Il faut que l'épisode sorte lundi prochain pour que ce soit une exclusivité.
Il faut qu'il sorte dimanche soir au plus tôt. Voilà. Parce qu'il faudrait pas qu'on grille le truc. On va sortir le communiqué de presse lundi, c'est ça?
Oui, il est prêt. Et on peut le sortir lundi.
Parmi les évolutions dans le futur, j'évoquais tout à l'heure, c'est un recrutement ciblé de nouveaux membres. Alors, on parlait des hébergeurs, et puis on souhaite aussi que des annonceurs s'intéressent à nos sujets. Alors, pas forcément recruter des annonceurs comme membres, même si c'est parfaitement possible, mais on souhaite travailler avec eux, parce que très souvent on remarque que des campagnes sont perçues comme du spam par certains internautes, par des annonceurs parfaitement légitimes. Et donc, il y a parfois certaines pratiques comme la réutilisation d'adresses, la gestion des listes, hein, qui est pas parfaite chez tous les acteurs, où ils sont peut-être mal conseillés ou mal appuyés par certains prestataires mieux disant ou moins chers. Et donc, ils ont certainement besoin d'être accompagnés. L'autre catégorie de personnes avec qui on aimerait travailler, c'est les associations de consommateurs ou toute association d'internautes qui sont intéressés par ces sujets-là. On est disposé à les rencontrer, à leur expliquer, à leur montrer comment fonctionne dans le détail l'association. Par exemple, les outils qu'on utilise, les tableaux de bord, comment on traite un incident, etc. Ça peut être quelque chose dont on peut discuter avec des associations. Thomas?
Oui, tout à fait. Donc moi, je savais que j'ai plutôt développé tout ce qui était les évolutions techniques. On a aussi un gros volet sur la récupération des plaintes des FAI. C'est ce qui permettrait à l'association de franchir un cap, c'est-à-dire pouvoir collecter de manière assez large toutes les plaintes qui sont formulées auprès des messageries et pouvoir les redistribuer à l'écosystème dûment accrédité et autorisé. Voilà, ça, ce serait aussi une évolution pour l'association. On y travaille, ça nécessite petite modification du cadre juridique et des évolutions sur les portails des opérateurs. Mais en tout cas, voilà, le rapprochement avec les opérateurs et ensuite avec les hébergeurs permet d'envisager de maximisation des plaintes.
Et on peut peut-être citer le mois prochain, on sera à une conférence qui est le MOG. C'est quoi le M3? C'est Messaging.
Le M3, c'est Messaging Malware Mobile.
Messaging Malware Mobile. Yeah, and Mobile Abuse Working Group. Donc c'est une conférence qui est pas très connue, mais qui est vraiment spécialisée sur les questions de spam et qui dans le milieu est très connue quant à elle. Hein. Et on y rencontre tous les acteurs, alors notamment américains sur ce secteur, mais en réalité du monde entier. Et donc on y sera dans un mois pour aux côtés de certains de nos membres pour représenter l'écosystème français et puis continuer de défendre notre modèle. Et justement, c'est quelque chose qui a bien progressé depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup d'intérêt pour la façon dont on a travaillé en France. Et à la fin de l'année, le MOOC va se réunir en France. Et donc, si des acteurs s'intéressent à ce sujet-là, notamment parce qu'on ne parle pas que du spam à cette conférence, mais aussi de la diffusion de malware, des attaques en déni de service, de la gestion des services abuse, etc. C'est une conférence qui peut être très intéressante pour certains acteurs qui n'ont pas l'occasion de voyager jusqu'aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe. Elle sera à Paris à la fin de l'année.
Oui, la conférence n'est pas ouverte au public. Il faut être membre du MOG, mais on peut également être invité à participer aux conférences du MOG.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter, les hébergeurs, par exemple, qu'on se fera un plaisir d'accompagner pour venir participer avec.
Oui, comme on l'a fait avec deux gros hébergeurs déjà.
Parfait, messieurs. Ben, merci beaucoup. Et puis, espérons que votre quête prendra fin et que le spam sera enfin contrôlé sur Internet.
Merci.
Vlad, c'est le moment de la minute fail ?
Ouais. Alors, le principe de la minute fail, c'est de présenter un incident passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais surtout pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Une nouvelle fois, cette histoire prend place dans un data center. Il y a un début d'incendie dans une salle. D'une efficacité dingue, les pompiers arrivent sur le site en quelques secondes et coupent le courant électrique. Donc tous les équipements et serveurs sont éteints et jusqu'ici, tout va bien. Sauf que parmi les serveurs éteints, on trouve ceux qui pilotent l'ouverture des sas de sécurité et d'accès au bâtiment. Donc plus personne ne peut sortir ni entrer dans le bâtiment, et en particulier dans la salle où l'incendie est déclaré. Donc après plusieurs heures au pied de biche et à la hache, la porte du SAS finit par s'ouvrir et les pompiers ont enfin accès à la salle à l'origine de l'incendie qui heureusement avait déjà été arrêtée grâce à l'injection de gaz. Donc gros fail au niveau de la gestion des SAS. Voilà.
Effectivement.
Et ouais, t'as eu quel rôle à jouer toi, Vlad, là-dedans ? T'as éteint l'incendie ?
Non.
Eh bien, on vous remercie pour cette émission et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.